9h, 11h, Europe 1 Culture Média, Philippe Bondel.
Bonjour Antoine Duléry.
Bonjour Philippe.
Antoine Duléry qui est en train de mettre son masque, comédien, théâtre, télé, cinéma. On vous a vu dans Les Campings 1, 2, 3, dans Brise de Nice, dans beaucoup de films de Lelouch, de Tout ça pour ça au dernier Johnny, dans les séries Les Petits Meurtres d'Agatha Christie et ou Le Bazar de la Charité récemment. Et là, vous publiez une autobiographie très personnelle au titre parlant Imite acteur. C'est chez Cherche Midi, pardon. C'était quoi votre idée avec ce titre ?
Parce que j'ai commencé mes premières représentations, si je puis dire, quand j'étais tout petit avant d'aller au cours Florent, c'est en imitant les gens. Voilà. Ouais. Le pouvoir de faire rire, ça a été d'abord de faire rire mes grands-parents, tout ça. Donc finalement, j'ai été d'abord imitateur avant d'être acteur. Voilà, parce que acteur, c'est l'inverse d'un imitateur. Donc je me méfiais de mes tons d'imitateur. Mais quand même, au bout d'un moment, c'est revenu. J'ai fait un spectacle. François Berléand, Muriel Robin m'ont dit maintenant, c'est un petit peu bête, maintenant qu'on te connaît comme acteur, que tu fasses pas profiter à tes amis de tes talents d'imitateur. Donc voilà, j'ai fait un spectacle. Mais comme un spectacle, c'est quand même court, je ne pouvais pas tout raconter ce que j'avais vécu dans ma carrière d'acteur avec tous ces gens formidables que j'ai croisés. Et c'est pour ça que j'ai décidé de faire ce livre qui s'appelle Imite acteur, qui est donc une contraction de, vous avez compris, d'imitateur
acteur
et d'acteur.
Et imitateur.
Et finalement, c'est un peu ce que je suis quand même. Voilà, donc ouais. Je crois que ça me résume bien. Je crois que c'est un titre qui me résume bien. Et pardon, juste terminer, c'est que c'est un copain qui m'avait dit ça quand j'avais 15-16 ans. Il m'avait dit, au fond, Antoine, tu es un imitateur. Et ce terme ne m'avait jamais quitté. Voilà.
Alors, les portes se sont ouvertes grâce à ce talent, et pas seulement celle du métier, avec les femmes également. Comme vous étiez très, très timide à l'adolescence, vous étiez inventé un proverbe.
Oui, femme qui rit, femme à Duléry. Bon, ça, encore une fois, c'était pour faire rire. Hein.
Ouais, mais ça a marché ou pas ?
Pas vraiment, parce que, comme je faisais évidemment beaucoup rire, quand il fallait arriver au sérieux, c'était très compliqué, parce qu'elle elle continue à rire. Ouais. Donc, il y avait un copain mystérieux qui arrivait, et c'est lui qui pécho.
Comment dire. Votre femme, je ne vais pas vous demander comment vous l'avez pécho, mais est-ce que vous continuez à la faire rire ? Est-ce que vous continuez à lui faire des imitations ? Ou est-ce qu'au contraire, elle n'en peut plus ?
Je crois qu'elle n'en peut plus. Vous savez, se coucher avec Fabrice Lucchini, se réveiller avec Jean Marais. Elle n'en peut plus, mais elle me soutient. Elle m'a beaucoup soutenu, Pascal Pouzadou, dans l'écriture de ce livre. Et elle est très importante pour moi. Mais je crois qu'elle n'en peut plus.
Ouais. Alors, vous faites parfois des aveux sur vous-même.
Oui,
là, on
sûr.
Est dans la légèreté. Mais parfois, vous dites des choses. J'avais jamais vu un comédien dire ça. La jalousie envers les autres. Vous dites, rien ne me faisait plus enrager que de m'entendre dire, j'ai rencontré un tel l'autre soir, qu'est-ce qui m'a fait rire. Et ce qui vous énerve le plus, c'est quand on vous dit, il m'a fait penser à toi, vous avez exactement le même humour.
Oui, ça c'est quand... Alors ça, c'était pas la jalousie entre acteurs, mais c'est vrai que j'avais une espèce de pouvoir de bouffon un peu. Je m'étais même enfermé un peu là-dedans.
Ouais.
Ce pouvoir de faire rire. Et c'est vrai que si on me l'enlevait ou qu'on me disait, tiens, j'ai connu quelqu'un d'aussi drôle que toi, eh ben c'est vrai que ça j'aimais pas ça du tout, parce que ce rire qui me faisait exister, si quelqu'un me le volait, j'avais l'impression d'exister moins. Mais c'était vraiment un manque de confiance de ma part.
Et alors, il y a un autre paradoxe dans ce livre. Vous n'arrêtez pas de parler de votre talent d'imitateur, mais vous n'avez plus envie de le faire. Vous n'avez plus envie qu'on vous le demande. Alors je me suis dit, je vais lui demander. Maintenant, je me dis, si je lui demande, il va se braquer, il va se barrer.
Non,
je ne sais plus
ça,
quoi faire.
Non, c'est parce que je raconte tout dans ce livre où il y a plein d'anecdotes drôles, justement, mais pas que de l'imitation, mais à travers tous ces de Johnny à Jean-Paul, je raconte plein d'anecdotes très formidables et vraiment croustillantes. Et si je voulais faire, les gens n'auront plus envie de lire le livre. Donc c'est comme une bande-annonce de film. Voilà, c'est pour ça que je ne peux pas faire des imitations. Et puis c'est surtout le fait que maintenant, je les ai fait sur scène et. Voilà, je préfère qu'on me voie dans mon spectacle, que je continue d'ailleurs à tourner.
Ah, j'allais vous demander, est-ce que vous en parlez au passé du spectacle ?
Non, je continue là, j'ai
est-ce
encore
que vous êtes...
des tournées à faire.
Est-ce que vous considérez Antoine Duléry à l'apogée de votre carrière ?
Ah non, ce serait très prétentieux.
Parce que dans le livre, pardon de rigoler, il vous rencontrait Dominique Besnéard tous les 10 ans, et tous les 10 ans, ils disent, toi, tu vas être au sommet dans 10 ans.
Oui, c'est ça. Il me disait ça, toi, c'est à 20 ans que ça va marcher. Puis après, je le voyais, il me disait, c'est à 30 ans, puis c'est à 40, puis c'est à 50. Mais comme j'avais la chance de tout le temps travailler, je flippais pas pour ça, quoi. Non, je crois qu'on n'est jamais, ce serait très prétentieux. Et j'ai pas encore le grand rôle dramatique dont je rêve, mon garde à vue. Non. Mais vous savez, c'est un métier où on apprend tous les jours. Et heureusement que c'est... Ouais. Voilà, ce livre, c'est un entrain. Que je convie tous les lecteurs qui vont me lire, c'est comme si je les invitais à dîner chez moi et puis qu'on passe un bon moment, surtout qu'on rigole,
oh,
qu'on
rit,
qu'on rit, qu'on rit.
Les dîners chez vous, comme dirait Besnéard, il y a un check casting. Dans un instant, Angèle Châtelier qui va nous dresser le portrait musical de notre invité, Antoine Duléry.
9h, 11h, Europe 1 Culture Média, Philippe Vandel.
En compagnie du comédien Antoine Duléry, imitateur, c'est le nom de son autobiographie un peu étrange, nouvelle, préface de Claude Lelouch, sortie aux éditions du Cherche-Midi. Hélène Manarino n'est pas là aujourd'hui, on va tout vous dire. Elle n'est pas du tout Covid, elle est en tournage aujourd'hui et demain. Et c'est Angèle Châtelier qui lui a piqué son fauteuil, mais pas son portrait inattendu, avec vous. Bonjour, évidemment, Philippe. Angèle Châtelier, on va parler musique.
Et oui, bonjour Antoine Duléry.
Bonjour.
Alors vous, toute votre vie aura été marquée par la chanson française. Alors pour vous mettre dans le bain, en 1959, votre année de naissance, désolé de le dévoiler, l'un des tubes, c'était Sacha Distel.
Ce serait dommage. Oui, bien dommage.
Je ne la connaissais pas, celle-là.
Là, voilà,
moi non plus, je connaissais La belle vie qu'il y avait dans Camping 1, évidemment, mais pas celle-là. Merci de me la faire découvrir.
De l'année 1959. D'ailleurs, c'était votre anniversaire samedi, si mes informations sont bonnes. Bon anniversaire.
Mais merci. Oui,
alors, à la maison, Antoine Duléry, vos parents écoutaient surtout de la musique classique, notamment Beethoven. Oui. Son œuvre alimente encore vos souvenirs. Mais dans les années 70, alors ado, à l'heure où certains écoutent AC/DC, les Sex Pistols, ben Antoine Duléry, vous jetez votre dévolu sur Robert Charlebois, votre premier concert.
Oui.
Je reviendrai à Montréal.
Dans un pays bleu de mer. C'est une chanson magnifique.
C'est splendide.
Je reviendrai chez Philippe Vandel.
Et heureusement que vous avez dit que vous ne vouliez plus faire d'imitation. Là, c'était Charlebois.
Je le fais très très mal, mais je fais l'accent qu'un Québécois.
Mais j'adore. C'était quand? Vous vous souvenez de ça? Vous vous souvenez de ce concert-là?
Oh, ça devait être en 79, un truc comme ça. Je devais avoir 18, 19 ans. C'était un de mes premiers. J'ai dû en faire d'autres avant, mais c'est vraiment celui-là qui m'avait marqué.
Pourquoi?
Je sais pas, parce que c'était un des premiers. Puis j'adore Charlebois. Et cette chanson, notamment, est magnifique. Elle est belle, nostalgique. Tout ce que j'aime.
Alors, il y a un autre concert qui vous reste en mémoire, qui nous ramène en 2006. Vous êtes à Carré, au Festival des Vieilles Charrues. 50 000 personnes se rassemblent devant Johnny Hallyday cette année-là. Ouais. Et vous aussi. Mais alors, avant la fin du concert, vous quittez la foule pour vous rapprocher des loges avec Laetitia Hallyday. Johnny commence alors à entonner une chanson. Est-ce que vous vous souvenez de laquelle c'est?
Je crois que c'était... Je suis pas allé dans les loges, je suis carrément allé devant la scène pour partir, évidemment, avant les 50 000 personnes avec Laetitia. Donc j'étais devant la scène, j'avais Johnny devant moi qui chantait La Quête Jacques Brel, et j'avais derrière moi 50 000 personnes. Vous savez, je sentais les 50 000 personnes et j'avais Johnny devant moi, comme je vous vois, en train de chanter La Quête. C'était un mouvement, j'en ai encore la chair de poule. Magnifique.
Aimer. Même trop, même mal. Oui, tenter, sans force et sans armure. Oui, d'atteindre
l'inaccessible étoile.
Et telle est ma quête.
C'est extraordinaire.
C'est le son original des Vieilles Charrues.
C'est le son original des Vieilles Charrues.
Ah, c'est beau, Sam, ça. Ça, mais je ne savais pas que c'était le son original. C'est un moment vraiment formidable. Et Johnny, il avait cette humilité. J'en parle beaucoup de Johnny dans mon livre. C'était quelqu'un que j'aimais beaucoup. Il m'a fait des choses d'émotion et d'amour remarquables que je raconte dans le livre. Et il avait cette humilité de terminer ses concerts par les chansons des autres.
Oui, c'est vrai.
C'est assez rare, vous savez ça.
Antoine Duléry, vous êtes encore si fidèle à la chanson française que la dernière fois que vous avez sorti votre portefeuille pour acheter un disque, c'était pour Am 50s, le dernier album d'Alain Souchon. Oui. Et aussi Dany Briand qui interprète les plus grands tubes de Charles Aznavour. Car Antoine Duléry, j'ignore si comme on joue de l'amour, vous vivez la nuit. Mais la nuit comme le jour, c'est lui qui vous accompagnera toujours, Charles Aznavour.
Merci. Emmenez-moi. Ah bah Charles, oui, c'est... voilà. Extraordinaire. Je le raconte aussi dans mon livre, j'ai fait les deux derniers déjeuners avec Charles et avec Jean-Paul Belmondo. Et il m'a dit, on a déjeuné un mardi, il m'a dit, qu'est-ce que vous faites demain? On était en train de déjeuner, Jean-Paul et moi dit, on fait rien. On va redéjeuner ensemble. On a redéjeuné avec lui le mardi et le mercredi. Et le dimanche soir, il nous a quittés, ou le lundi matin.
Voilà, bah c'est exactement ce qu'on allait raconter. Je sais que vous avez aussi une déception, c'est de ne pas l'avoir vu en concert, Charles Aznavour.
Si, je l'ai vu plein de fois. Heureusement, avant de le connaître. Et après, il m'a invité à Bercy, un de ses derniers concerts. Il avait 94 ans et demi et il était incroyable.
Quelle classe.
Vous savez ce qui est la plus grande classe? C'est le 94 ans et demi, comme quand on était à la maternelle. Merci beaucoup Angèle Châtelier.
Merci
Antoine Duléry, vous restez
Angèle
avec nous. Dans un instant, notre première indispensable, Margot Barallon, qui va nous faire découvrir une série coup de poing sur les violences urbaines.
9h, 11h, Europe 1, Culture Média, Philippe Vandel.
On va parler série avec Margot Barallon, mais d'abord avec Antoine Duléry. Imite acteur, c'est le titre de votre livre au Cherche Midi, dans lequel vous parlez de vous, puis vous racontez aussi des anecdotes absolument savoureuses. Vous étiez à la source, que c'est la personne intéressée qui vous l'a raconté, et j'en parle parce que avec Angèle, on parlait de Jenny Hallyday. Vous racontez une histoire absolument dingue au moment du film, quand ce film était en train de se monter, le film Jean-Philippe. Je rappelle de quoi il s'agit, c'est une sorte d'uchronie où Johnny Hallyday se retrouve dans un monde où Johnny Hallyday n'a jamais existé et lui-même s'appelle Jean-Philippe Smet.
Exactement, alors j'ai amené le projet à Johnny, enfin voilà, Johnny a dit oui tout de suite et Fabrice a mis un peu de temps à exprimer son envie de faire le film, à accepter le film tout simplement. Alors ça a énervé un peu Johnny. Et moi, un jour, j'étais chez Johnny, à Marne-la-Coquette, on prenait un petit café, très sympa, dehors, etc. Puis brusquement, on l'appelle au téléphone, alors il rentre chez lui, il ressort dans son jardin, il me rejoint, il me dit « Dis-moi Antoine, Fabrice a appelé, sans doute pour me donner son avis, favorable ou non, enfin, et je ne l'ai pas pris au téléphone. » Alors j'ai dit « Mais pourquoi tu ne l'as pas pris au téléphone, Johnny ?»« Parce que ma gouvernante, qui ne parle pas très bien le français, elle m'a dit « Monsieur, c'est Fabrice le kiné. » Et moi, je ne connais pas de kiné qui s'appelle Fabrice. Alors, j'ai assisté à ça en direct, c'est-à-dire que Fabrice a appelé 43 fois, il s'est fait raccrocher au nez, et puis au bout d'un moment, ils se sont rendus compte que c'était peut-être Fabrice le kiné, et non pas Fabrice le kiné. Donc ça, j'avoue que c'est une histoire qui m'est arrivée, et qui m'est revenue un jour par Jean Rochefort, qui m'a dit « Mon grand, j'en ai une bonne sur Johnny », et il me raconte celle-là. Mais je lui dis « Mais Jean, c'est à moi qu'elle est arrivée cette histoire !» Et elle avait fait le tour de Paris, je ne sais même pas comment. Voilà, donc mon livre est truffé de genre d'anecdotes de ce genre.
Truffé, c'est le mot. Vous êtes fan de série ?
Ouais, pas mal.
Enfin, vous avez pas dire non, parce que j'ai vous pas, sentez j'ai pas obligé. Hein.
Non, je suis fan. Il y a des séries que j'aime bien. Mes enfants m'ont fait découvrir Breaking Bad, mais c'est vrai que j'ai pas beaucoup de temps. Et ça, c'est très chronophage, quoi. Voilà. Donc, c'est pas que je suis fan, j'ai pas le temps. Mais j'ai vu Breaking Bad, j'ai vu True Detective, tout ça, c'est formidable.
Antoine, j'entends notre rédacteur chef me dit excellent Breaking Bad. Margot Barallon.
Oui, excellent.
Bonjour.
Je vous ai cité, je vous ai pas salué. Bonjour. Quelle série vous nous conseillez ce matin ?
Alors, pas Breaking Bad, mais c'est vrai que c'est excellent. Cette fois, je vous conseille une série espagnole qui vient de sortir sur MyCanal. Ça s'appelle Antidisturbios. Et Antidisturbios, en fait, c'est le nom en VO des policiers anti-émeutes en Espagne. Donc tout commence à Madrid avec l'une de ces brigades qui a pour mission d'expulser des gens d'un appartement. Le problème, c'est qu'on est en plein mois d'août, donc effectif réduit. Et lorsque les forces de l'ordre arrivent devant l'appartement, il y a 30 personnes qui manifestent contre l'expulsion. Et là, le chef de brigade sent que ça va être un peu plus compliqué que prévu.
Le juge dit d'y aller. Il est au courant qu'il n'y a qu'une seule équipe. Je lui ai dit. Puma 93 à Puma 90. Demande d'appui significatif pour exécuter l'ordre d'expulsion du 7 rue Dal Olivo.
Pour l'instant, j'ai pas de brigade disponible. En attendant, les ordres sont de procéder à l'intervention.
Donc la mission est aussi délicate que l'intervention sera musclée. Je vous le donne en mille, ça va très mal se finir.
Pour reculer, bordel de merde !
Reculer !
Oh merde ! Puma 93 à H50. Il nous faut d'urgence une équipe du SAMU 7 rue Dal Olivo. Les téléphones. Un civil est tombé du premier étage.
Antidisturbios, c'est donc l'histoire d'une bavure et de l'enquête qui s'ensuit.
C'est très d'actualité, les violences policières.
Oui, et elles sont vraiment particulièrement bien abordées dans cette série qui est très nuancée. La scène de l'intervention dont je vous ai juste passé un tout petit bout, elle est très longue en fait, quasiment 20 minutes. Donc c'est presque en temps réel, caméra à l'épaule, le spectateur est au plus près des policiers, il voit tout et pourtant... Très, très difficile de conclure à la fin si oui ou non, il y a eu une faute des forces de l'ordre. D'ailleurs, cette histoire, elle embête aussi beaucoup les agents des affaires internes qui sont chargés d'enquêter.
Ils veulent qu'on enquête pour savoir si les agents ont agi de manière proportionnée ou s'il y a eu des débordements tant aujourd'hui que dans les antécédents des agents.
C'est pas une affaire disciplinaire ?
Si, absolument, mais ça prendrait des mois.
Mais moi, tout ce que je vois, c'est qu'une seule équipe anti-émeute est allée faire un boulot qui demande normalement l'intervention de deux fourgons au moins. Ça relève pas de notre service, Diana. C'est pour la commission disciplinaire.
Les violences policières gratuites ne relèvent pas de notre service.
C'est de la politique.
Dis-moi ce qui n'est pas politique.
Tout est politique et tout est politique, surtout dans cette série. Je ne veux pas trop vous dévoiler l'intrigue, mais en fait, rapidement, l'enquête qui est menée par une jeune femme très déterminée va se révéler bien plus large qu'une petite affaire de bavure. Et moi, c'est ça que j'ai beaucoup aimé avec Antidisturbios. C'est une série qui va au-delà de son sujet de départ. Donc effectivement, ça interroge les violences policières tout en nuances. C'est aussi une série intime. puisqu'on va suivre ces personnages dans leur vie privée pour essayer de comprendre pourquoi ces hommes deviennent violents lorsqu'ils ont un uniforme. Et enfin, c'est une critique assez virulente du système politique espagnol.
Mais alors, à qui on doit une série aussi réussie, Margot ?
À un réalisateur que j'adore, qui s'appelle Rodrigo Sorogoyen. Alors, vous connaissez peut-être pas son nom, mais il a beaucoup travaillé pour la télévision et pour le cinéma. Son dernier film, Madre, est sorti cet été.
Ah oui, c'est Madre.
Je vous le conseille.
C'est très beau, Madre.
Aussi. Alors, c'est un immense metteur en scène, Sorogoyen. Et il estime qu'on doit être aussi exigeant formellement avec les séries qu'avec les films. Donc, je vous ai parlé de cette fameuse scène de l'intervention dans laquelle il embarque complètement le spectateur avec les policiers. Un peu plus tard dans la série, il y en a une autre. Alors, c'est assez drôle d'ailleurs, parce que la brigade doit cette fois sécuriser un rassemblement de supporters de l'Olympique de Marseille qui viennent à Madrid pour voir un match. Et là, c'est filmé complètement différemment, c'est-à-dire de loin, sans caméra subjective, et le spectateur va prendre beaucoup plus de distance avec les policiers, avec leur action. Donc ça montre à quel point la mise en scène, c'est un langage. Le réalisateur, il peut vous dire quelque chose de très différent selon les choix de plans, de mouvements de caméra qu'il va faire. Et ça, on le voit encore trop peu dans les séries. C'est génial d'en voir une virtuose comme ça, avec autant de style.
Rappelez-nous le titre, Margot.
Antidisturbios, et c'est seulement 6 épisodes, je pense à vous, Antoine Dinéry, qui n'avait pas le temps à voir sur la
6 épisodes, ça c'est, ouais, ça c'est bien, c'est pas trop
dès aujourd'hui.
Ça vous a tenté ?
Ouais, beaucoup, beaucoup, mais j'adore ce metteur en scène. Et c'est vrai que maintenant, voilà, il n'y a plus de différence entre le cinéma et les séries. Il y a une facture extraordinaire. Souvent.
Regardez, quand on tourne, il n'y a pas de différence. Non, le bazar,
il n'y a pas de différence. C'est pas ça, mais c'est maintenant une série. Oui, il y a des séries qui sont formidables. Le bazar de la charité, c'était formidable. Mm. Ça vaut plein de films de cinéma et qui sont moins bien. Voilà, il n'y a plus de. La télé, le cinéma, j'ai connu ça à l'époque, on disait « Ah, tu fais de la télé, en gros c'était de la merde ». C'est fini depuis longtemps. Moi, depuis très longtemps d'ailleurs, je faisais à la fois du cinéma et de la télé. J'ai toujours fait ça moi, et j'en parle d'ailleurs aussi dans mon livre, à ce que je dois à tout ça.
Merci beaucoup Margot Barallon.
Merci Margot.
Pour à très vite. Dans un instant, notre deuxième indispensable, Laure d'Autriche, qui nous parle d'un disque très particulier. Mais d'abord, on écoute Francis Cabrel.
9h, 11h, Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel.
En compagnie du comédien Antoine Duléry, dont on a appris qu'il était mélomane, beaucoup de gens, mais que vous avez commencé votre éducation musicale avec vos parents en normal, avec de la musique classique. Bonjour Laure d'Autriche.
Bonjour.
C'est le second indispensable du jour, et vous allez nous parler d'un disque qui vient de paraître, dans lequel un violoniste autrichien joue avec un violon, pas n'importe lequel, dites-le.
C'est le violon qui a appartenu à Mozart. C'est un violon âgé de 300 ans environ, d'une couleur foncée, d'un très beau marron foncé. Ce n'est pas un Stradivarius. On ne connaît même pas avec certitude le nom du luthier qui l'a fabriqué. Mais voilà, Mozart a joué et donné ses concerts sur cet instrument jusqu'à ses 25 ans avant de donner ce violon à sa sœur. C'est un violon au son brillant et chantant, tout ce qu'est même Mozart. Et le violoniste autrichien Christoph Konz, qui est membre de l'Orchestre Philharmonique de Vienne, a pu le sortir du musée de Salzbourg. Alors il a fallu improviser, apprivoiser l'instrument 4-5 heures par jour, ne pas se laisser intimider aussi. Et puis Christoph Konz s'est mis à jouer les œuvres que Mozart jouait lui-même.
J'étais tout seul pendant 3 ou 4 heures et j'ai vraiment joué tous les concerts de Mozart tout de suite. J'étais trop content. Le registre aigu, c'est très très joli, je pense, et on peut vraiment faire de la musique en chantant, vraiment. On peut jouer le violon dans une manière chantante. Depuis la mort de Mozart, en fait, je pense que je suis la personne qui a travaillé le plus sur cet instrument.
Si je puis me permettre, je trouve le son absolument magnifique, mais je ne suis pas connaisseur comme vous. Est-ce qu'on ne me serait pas laissé prendre à n'importe quel autre violon bien présenté, bien joué ? Est-ce qu'il a vraiment un son exceptionnel ?
Oui, il a un son exceptionnel de la fin du XVIIe siècle. C'est un très beau violon, mais ce n'est pas non plus un Stradivarius ou un Guarnerius qui sont parmi les violons les plus mythiques. Ce qui en fait évidemment quelque chose...
Mais c'était celui de Mozart.
C'était exactement...
Moi, je pense à l'émotion du musicien...
Voilà.
qui joue quand même.
Absolument.
C'est comme si moi je mettais le costume de Frédéric Lemaître.
Et, enfin, et c'est en ça qu'il est exceptionnel, ce violon, et qu'il n'a pas de prix finalement. C'est parce qu'il a appartenu à Mozart. Alors, le jeu du violoniste qu'on entend est un peu différent, bien sûr, l'archet avec lequel il joue aussi. Mais ce qu'on entend, c'est probablement ce que le public du XVIIIe siècle entendait. C'est comme un saut dans le passé, à l'époque de Mozart. Alors, Mozart a écrit 5 concertos pour violon, et à la fin, il y a toujours ce qu'on appelle une cadence, un moment où le violon joue seul. Mozart improvisait à ce moment-là. Et comme Mozart il y a 300 ans, Christoph Kontz a enregistré ses propres cadences. Avec ce violon, il a eu clairement l'impression de dialoguer avec Mozart.
J'ai eu une vraie conversation entre Mozart et nous. Je pense que le style dans les concerts de violon, c'est très théâtral. C'est presque comme des scènes d'opéra. Et c'est pour ça, je pense que c'est très important de le jouer dans une manière chantante.
Ce violon est très rarement montré en dehors du musée de Salzbourg. Il est conservé comme un trésor. Et donc, vous pouvez l'entendre dans ce disque avec Christoph Kontz au violon, l'orchestre des musiciens du Louvre, un disque qui vient de paraître édité par le label Sony.
Anthony Léry, réaction ?
Bah, c'est sublime, c'est très émouvant. Puis moi, je suis un dingue du violon. Le violon, vraiment, c'est l'instrument de l'âme, quoi. Dès qu'on entend ça, on est transporté, surtout quand il y a l'âme, évidemment, de Mozart qui est là. J'adorerais voir et entendre ce type jouer vraiment avec ce truc historique, même si c'est pas le plus grand. Au niveau de l'émotion, je pense que c'est le plus fort.
Et vous avez au moins quelques extraits sur YouTube de vidéos, vous pouvez le voir et l'entendre.
Je vais aller regarder ça immédiatement, parce que ça me touche beaucoup quand on rentre dans l'histoire, comme ça, ouais, quand on rentre dans le passé à travers l'art et la musique.
Merci beaucoup, Lord d'Autriche.
Merci.
À très vite. Vous restez avec nous, Antoine Duléry.
Grand plaisir. Hein, je suis très, très heureux ici, mon cher Philippe.
Pareillement. Je voulais trouver une petite vanne, mais je ne vais pas faire une vanne sur Mozart. À tout de suite, Culture Média continue.
9h, 11h, Europe 1, Culture Média, Philippe Vondel.
En compagnie d'Antoine Duléry, le comédien, mais qui est aussi auteur, puisqu'il publie Imite Acteur, c'est au Cherche Midi. Il raconte sa vie, ses talents d'abord d'imitateur, qui vous ont amené ses talents à votre métier de comédien. Quand
exactement.
On vous suit, on est un peu baladé, on vit sur un grand pied, à vous lire. Parce que moi, je me suis retrouvé avec toute la jet set. J'ai été invité en croisière sur le bateau de Johnny Hallyday, des déjeuners avec Aznavour et Jean Dujardin, que vous organisez comme ça en un coup de fil. Vous êtes invité dans le château de Gérard Depardieu ou alors par la princesse Caroline de Monaco. Déjà, il faut y arriver. Et pendant le dîner, qu'est-ce qui déboule ? Le prince régné. C'est votre vie quotidienne ?
Non, c'est pas
parce
ça.
Parce que là, on est dans Gala, on est dans Point de Vue.
C'était un réveillon tout à fait intime en Provence. Et puis bon, voilà. On était vraiment qu'entre nous.
Oui, c'était un réveillon intime.
Et puis d'un coup, ben c'est normal, elle avait invité son papa, évidemment. Son papa adorait Michel Serrault. Et alors, je lui ai dit bonjour, monseigneur, un peu surpris de le voir. Il me dit, c'est papa adore Michel Serrault, tu peux lui faire. Alors, dans ces moments-là, l'audace d'Itmit fait qu'on n'hésite pas. Donc, j'ai fait Michel Serrault à.
Arrivé.
J'ai fait, hey, monseigneur, comment ça va ? C'est, oh, j'ai cassé ma biscotte. Et j'ai vu cet homme qui, évidemment, était régné de Monaco, Marine Grace Kelly, pleurer de rire. Et là, j'ai un peu du recul sur moi-même. Je me vois en train de faire Serrault. Et le lendemain, il me l'a redemandé. Il m'a dit, ça va, Albin, qui est le personnage de Serrault dans La Cage folle. Et à nouveau, je lui ai dit, bah oui, vous avez passé une bonne nuit, monseigneur. J'ai passé. Et puis, il pleurait. Voilà, donc j'ai voulu raconter tout ça parce que c'est déjà vieux, mais je me dis, oui, c'est drôle. C'est des rencontres que je n'aurais jamais imaginé faire. Voilà.
Sans ce métier. Dans votre galerie de portraits, il y a Belmondo, Johnny Hallyday, Chabrol, Depardieu. J'ai lu tout le livre. Hein. Pierre Richard, Claude Brasseur, Galabru, Claude Lelouch, Michel Serrault, Arditi. Il n'y a pas de jeunes, il n'y a pas de femmes. Pour quelle raison ?
Alors, parce que moi, les jeunes, je parle quand même de mon copain du jardin. Mais c'est vrai que.
Il n'y a pas de vingtenaire, il n'y a pas de trentenaire.
Non, parce que moi, c'est vrai que je reviens beaucoup sur ma jeunesse, sur l'envie de faire ce métier. Et c'est vrai que c'est ces types-là, c'est normal, qui étaient mes aînés, qui m'ont donné. Et puis après, j'ai eu la chance de rentrer dans le film et de les rencontrer. C'est pour ça, c'est pas du tout.
Et pourquoi il n'y a pas de femmes ?
Je travaille. Parce que si je parle de Catherine Jacob quand même, mais et puis je fais dans mon spectacle, je fais Barbara, mais c'est vrai que mes amitiés, c'est pas voilà, je viens de vous parler de ma femme Pascal qui est ô combien importante, mais parce que c'est vrai que j'ai été c'est ces types-là que j'ai connus. Il se trouve que voilà, c'était j'avais sans doute une figure un peu paternelle comme ça. Alors évidemment, quand on est petit garçon, on est plus attiré parce que par Belmondo, par Jean Marais, par tous ces films de KPDP.
Évidemment.
C'est pour ça.
Voilà. Alors les jeunes, vous leur taillez un costard sur 136. Certains jeunes acteurs écrivent. Écrivez-vous, certains jeunes acteurs se soucient un peu trop de leur image, mais quelle image ? Par peur de la salir, ces comédiens frileux ne font aucune déclaration intempestive et ne s'amusent de rien. Agrippés à leur politiquement correct et au respect du non-franchissement de la ligne jaune, ils ne sont qu'ennuis et torpeurs quand ils évoquent leurs films. Leurs propos sont graves et sérieux, on se croirait au César. Bim, fin de citation.
Non mais c'est pas vrai pour tous les jeunes.
Je sais, vous dites certains jeunes.
Lannick Gottried, je peux en citer plein, Pierre Niney que j'ai croisé, enfin plein. Ouais. Il y en a plein qui sont des acteurs formidable et trop. Non, mais je trouve que parfois, c'est vrai que, mais en général, il y a un manque de fantaisie, un manque de légèreté. Et c'est vrai que quand je voyais Coluche, Serrault, tout ça, il y avait une vraie légèreté, une vraie déconne qui manque un peu. Voilà. Et je crois qu'il ne faut pas avoir peur de son image. On n'a pas d'image. Et comme disait Marielle, on ne fait pas carrière. Ce sont les militaires qui font carrière.
Pour finir, anecdote géniale dans le livre, vous voyez le lapsus.
Ben oui, mais c'est pas mal.
Quand Claude Brasseur rencontre dans un restaurant François Mitterrand, à l'époque où Brasseur jouait le dîner de cons au Théâtre des Variétés.
Oui, alors ça c'est Claude qui m'a raconté quand je jouais camping avec lui. Il jouait donc le dîner de cons depuis à peu près 800 fois. Et le président était très au fait de tout ce qui était théâtre, cinéma, il adorait les arts. Et un jour, Brasseur était dans un restaurant, il sort du restaurant, il avait fini de déjeuner, et là il entend Brasseur. Il se retourne, le président, qui visiblement se faisait chier avec deux énarques ou je sais pas quoi. Donc il vient à la table du président. Bonjour monsieur le président. Bonjour Brasseur. Alors, qu'est-ce que vous faites en ce moment ? Et Brasseur lui dit, bah, écoutez monsieur le président, je suis toujours au théâtre des variétés où je joue. Et le président lui dit, ah oui, votre fameux dîner. Eh bien, moi, vous voyez, c'est un déjeuner.
J'adore, j'en re-ris parce que je n'avais pas les accents à la lecture. Merci beaucoup Antoine Duléry.
Merci.
Cette
Philippe.
Anecdote et beaucoup, beaucoup d'autres dans ce livre Imite Acteur, préface de Claude Lelouch, c'est au Cherche Midi. Merci d'avoir été avec nous en direct sur Europe 1.